Qu'est-ce que vous faites au juste quand vous faites la fête ? À quelques jours de la Technoparade, par exemple, qui fête ce week-end ses 21 ans, on va encore s'interroger sur ces toughers ou fêtards, ces allumés qui paradent en plein jour sur des chars, faut-il qu'ils soient bizarres ? Parce qu'il y aura toujours dans la fête quelque chose de l'ordre de la subversion, de l'ordre, ou plutôt du désordre, car la fête organise un désordre, du moins des dérogations à l'ordre. Le penseur Jean Duvigneau a étudié magnifiquement ce moment privilégié, la fête, toujours attendu avec impatience, qui se trouve moins à l'intérieur du temps social qu'à ses marges, et qui est propice à la mise en relation de ce qu'il faut ordinairement séparer, les classes sociales, les sexes, les âges, voire les vivants et les morts, l'humain et le divin, le social et la nature, le jour et la nuit aussi. Ce moment de la fête, c'est comme une parenthèse qui donne à chacun la possibilité d'exprimer ce qu'il réprime ou ce pourquoi on le réprime. Un moment essentiellement politique, en fait, puisque l'individuel se fait collectif, puisque la fête repose sur la rupture et le renversement, et surtout parce qu'elle libère la société de ses démons. Pas longtemps, juste ce qu'il faut, mais on l'entend quand même. Ce grondement, posez-vous la question, à qui la fête fait-elle sa fête ?
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a le sens de la fête. Né à Détroit, il est l'un des pionniers de la musique techno outre-Atlantique, DJ éclectique, musicien, magicien du son. En 35 ans de carrière, il a sorti quelques 70 albums. Sight, Sound and Silence, c'est le nom d'une compilation qui fait la synthèse de son œuvre et qui sortira le 4 octobre. En attendant, il sera ce soir sur la scène de la Gaîté Lyrique à Paris. Bonjour Jeff Mills.
Hello, hi.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Tout d'abord, dans quelle mesure la fête est-elle pour vous essentiellement politique?
Dans ce que j'ai pu vivre et observer depuis des dizaines d'années, la fête a toujours été politique. J'ai fait mes débuts dans la dance music à une époque de transition. C'était les derniers jours du disco et la naissance de la house. C'était aussi l'émergence du hip-hop en Amérique. Et on sentait bien une réaction très négative à ces formes-là de divertissement.
Vous voulez dire que ces mouvements musicaux sont indissociables de lutte sociale, politique ?
Je crois qu'à chaque fois qu'une musique permet aux gens de dépasser les barrières sociales et raciales, elle est perçue par d'autres comme une menace. Le disco en est l'exemple le plus fort, parce que ces autres ont voulu tuer le disco. Ils refusaient que les gens se retrouvent, échangent des idées, se mélangent et partagent leurs points de vue. C'est depuis le début que la dance music est liée à la protestation.
Encore aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas, Jeff Mills?
It's still the case, yes.
C'est toujours le cas.
Il reste trop d'exemples où la vie nocturne et la dance music sont brandis comme des boucs émissaires pour servir des intentions politiques. Par exemple, pour démontrer que la municipalité prend des mesures de répression, un raid policier va aller interrompre une fête où les gens dansent sans faire de mal à personne. Tout ça pour montrer à un public peut-être plus âgé que l'ordre public est bien maintenu face à ces jeunes sauvageons et à leur musique. Mais il faut se souvenir que pour le rock, ça a été la même chose. Et voyez le rock aujourd'hui. C'est ce qu'il y a de plus populaire et mainstream.
Alors justement, en ce qui vous concerne, maintenant qu'il vous arrive de jouer avec des orchestres philharmoniques, que vous composez des bandes originales de films, que vous êtes un artiste installé, une référence, pour ne pas dire une institution à vous tout seul, en quoi votre pratique de la musique a-t-elle gardé sa charge contestataire ?
Alors,
pour vous répondre avec un peu de sincérité, je ne me lance jamais dans un projet sans avoir l'assurance d'en être capable. Et pourtant, en même temps, j'apprends constamment à élargir mon horizon pour être un meilleur musicien. Et ma carrière, c'est l'écho des possibilités et des chances qui m'ont été offertes.
Mais à quoi est-ce que vous continuez à résister aujourd'hui ?
Il reste dans l'opinion cette impression que la musique électronique, dans ses formes les plus intenses, c'est quelque chose de toxique. Alors que moi, je vois tous les week-ends des gens se retrouver grâce à cette musique, se reconnecter avec eux-mêmes, et aucun autre moyen ne leur permettrait ça. C'est une pratique bénéfique pour la société. La danse libère les gens. Elle leur permet de reprendre prise. Et je la trouve plus utile encore aujourd'hui qu'à l'époque où elle a été lancée, au milieu des années 80. Dans les périodes chaotiques, tourmentées, parfois la musique survient pour redonner confiance. La musique, elle est toujours parfaite, toujours présente à vos côtés. Elle n'a jamais tort. Elle est toujours dans le vrai. On peut toujours lui faire confiance.
Le concert qui aura lieu ce soir à la Gaîté Lyrique, il est organisé par une association d'aide aux réfugiés qui s'appelle Les Éveillés. La question de l'exil, je me suis demandé en quoi est-ce que c'est une question qui vous touche particulièrement, vous, Jeff Mills.
Quand on est afro-américain, quand on a grandi aux USA, on l'a porte en soi, cette question. On a le sentiment de ne pas faire partie de la société qui vous a vu naître. L'État, le gouvernement, vous démontre de mille façons insidieuses que vous êtes indésirable dans votre propre pays.
Plus encore aujourd'hui qu'hier.
Plus encore aujourd'hui qu'hier. Mais pas forcément plus demain qu'aujourd'hui. Quelque part, c'est compliqué à expliquer à quelqu'un qui n'est pas noir américain. Il est presque impossible de croire à quel point des pans entiers de notre société sont maltraités dans un pays censé incarner la liberté. Il y a des choses incroyables. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe.
Et en quoi cette violence que vous décrivez, en quoi ce sentiment d'exil est-il présent dans votre musique ?
Déjà, je joue d'habitude dans des pays qui ne me sont pas familiers. Pour des gens dont je ne sais pas grand-chose. Je suis donc toujours dans la position de l'autre, de l'étranger, de celui qui vient d'ailleurs. Avec le temps, j'ai appris à m'adapter à cette position. Puisque oui, je suis l'autre, autant maîtriser l'art d'être l'autre. Et cela se concrétise de plein de façons singulières.
Votre musique, elle est difficile à résumer, à circonscrire, à réduire à quelques morceaux, mais s'il fallait essayer quand même, Jeff Mills, c'est toujours avant tout une expérience dont on retient d'abord les cloches. The Bells, bien sûr. Mais Jeff Mills, c'est aussi un homme médicament. Medicine Man, et une dernière quand même qui évoque le geste, qui évoque l'espace, qui évoque la danse aussi. Vous avez commencé à faire de la musique, Jeff Mills, à pratiquer d'un instrument.
Au cours préparatoire ou en CE1. En Amérique, dans les écoles publiques, c'était obligatoire. Il fallait choisir entre un instrument ou le chant. Et la plupart des petits garçons choisissaient l'instrument.
Par le geste que vous faites, je vois que vous avez choisi la batterie. Quel souvenir est-ce que vous gardez de la découverte de la batterie, justement ?
À Détroit, entre garçons, c'était vraiment la compétition. Il fallait vite apprendre le rythme et le maîtriser très tôt. Je me rappelle, George Benson venait de sortir un album avec un rythme de batterie sur une chanson très complexe. Il fallait vraiment pouvoir maîtriser ces deux baguettes pour arriver à le jouer. Je me suis entraîné et à la récréation de midi, on pouvait montrer aux autres ce qu'on avait appris. Ça, c'est la première fois que je me suis rendu compte que j'assimilais les rythmes très facilement. Mon frère aîné faisait partie d'un groupe. Un copain à lui a voulu se débarrasser de sa batterie. Il l'a vendue à mon frère qui me l'a donnée. J'avais donc une grosse batterie à la maison et j'ai commencé à jouer toute ma scolarité jusqu'à mon diplôme.
Et cette pratique de la batterie, elle est indissociable de la façon dont vous avez d'envisager le métier de DJ encore aujourd'hui?
Il me semble que mon style vient de là, oui. C'est la pratique de la batterie. Mon objectif, c'est presque de prendre la rythmique à part, de la remodeler avant de la réinjecter dans la musique. C'est en pensant comme ça que j'ai appris à mixer.
La première fois que vous avez officié en tant que DJ devant un public, vous vous rappelez?
Pas la première fois, non. À l'époque, mon frère aîné était DJ. Et puis il s'est marié, et sa femme n'a plus voulu qu'il continue. Il m'a offert ses platines, ses disques, et tout d'un coup, je me suis retrouvé avec tout ça. Je répétais tout le temps. Je dormais plus, je mixais toute la nuit.
Qu'est-ce qui fait un bon DJ pour vous, Jeff Mills?
C'est l'écoute. Ce qui fait un bon DJ, c'est pas la compétence technique. C'est même pas la programmation. C'est ce que vous percevez du public, de ce qu'il aimerait entendre, de ce qu'il a besoin d'entendre à cet instant-là. Il faut connaître les gens. Ça demande de la psychologie. Si vous prenez trop de recul par rapport aux gens, vous ne les comprenez plus. Et là, ça devient compliqué. Vous n'arrivez plus à anticiper ce qu'ils aimeraient entendre. Être DJ, c'est faire partie de son public. C'est être au milieu des gens. Et même si vous avez beaucoup de succès, il vous faut trouver le moyen de garder le contact avec les gens, de leur parler, de savoir comment ils vont et ce qu'ils vivent. C'est important quand vous choisissez de la musique pour eux. Ça reste un dialogue. C'est comme une conversation. Vraiment, vous ne cherchez pas à les provoquer. Vous voulez échanger. Et il faut gagner leur attention et leur confiance très vite. Et ce que vous proposez doit être pertinent à leurs oreilles, pas forcément aux vôtres.
Il y en a une dans cette émission qui n'aurait jamais pu être DJ, ça je peux vous le dire, c'est la culture, parce qu'elle n'a aucune empathie. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 25 septembre?
Pour cette année des correspondances, on a une quarantaine d'auteurs invités.
Correspondances assurées, c'est aujourd'hui que commencent les correspondances de Manosque, délicieux rendez-vous d'automne qui s'emploie depuis 21 ans à réunir la littérature et les arts vivants. On y attend les incontournables de la rentrée littéraire, Jonathan Cohn, Natacha Apana, Cécile Coulon notamment, mais aussi le musicien Lescope qui chantera Rimbaud, Julie Depardieu incarnant George Sand ou Jacques Bonafé qui lira le Dracula de Bram Stoker, Chaleur.
Je peux en avoir encore un peu?
Non, Obélix, non.
Oh ben ça c'est pas juste.
Un héros à deux balles, rien d'ironique là-dedans, à l'occasion des 60 ans d'Astérix, la Monnaie de Paris a annoncé hier la mise en circulation d'une pièce de 2 euros à l'effigie de l'irréductible Gaulois, dont le 38e album, La fille de Vercingétorix, paraîtra le 24 octobre. Frappée à 310 000 exemplaires, la pièce commémorative coûtera 10 euros dans sa version de base, 20 dans sa version de luxe. Bonjour la Logix.
Attention, le voici, puissant, félin, redoutable, le jeune.
En avant, la jeunesse, hier, le joli prix de la vocation, créé pour mettre en lumière le travail de jeunes auteurs d'expression française, a sacré le primo-romancier Victor Gestin pour sa sombre et sensuelle Chaleur, parue aux éditions Flammarion. Dans le même temps, le prix a distingué la jeune poétesse Flora Souchier pour son recueil Sortie de route, à paraître aux éditions Chêne. Ben, c'est ça qu'on aime. Et puis mercredi festif du ciné et du kiff, car aujourd'hui dans les salles obscures on se met au vert avec Au nom de la terre, portrait déchirant du monde paysan porté par un Guillaume Canet formidable. On prend la pause avec le très beau Port Authority, récit d'initiation queer et voguant signé Daniel Lesovitz. Et sinon on résiste, prouve qu'on existe, avec Bacurao, faux western mais vrai appel à la résistance des Brésiliens Kleber Mendoza Filho et Juliano Dornelles, primé à Cannes. Vamos. Le musicien, compositeur et DJ Jeff Mills, invité de Boomerang ce matin, vous sortirez début octobre, Jeff, une compilation de 3 disques intitulée Sight, Sound and Space, la vue, le son et l'espace, qui est évidemment la porte ouverte à tout un tas de questions. Boomerang, en quoi les images, par exemple, sont-elles au centre de votre processus de création ?
Vous connaissez le proverbe, voir, c'est croire. Je travaille sur le son depuis si longtemps. dans de multiples dimensions, que je sais que quelque chose échappe à l'univers sonore. Arriver à visualiser ce qu'on entend, à voir l'équivalent de ce qu'on entend, dans la musique conceptuelle, comme ce que vous proposez, là, c'est des concepts, il est clair que c'est très important.
Mais par exemple, si vous deviez penser à une image forte qui a nourri votre musique, laquelle serait-elle pour qu'on comprenne bien?
The emptiness of space.
Le vide intersidéral.
Wow. Well, actually, it's not really empty.
C'est pas vraiment du vide. Mais la distance qui sépare les astres est tellement énorme qu'elle révèle à quel point nous sommes microscopiques sur la Terre.
Alors quand vous composez, qu'est-ce que vous voyez précisément? Quelles images surgissent? Quelles images vous guident, là en l'occurrence?
Ça varie. Si je compose quelque chose qui évoque l'espace, les planètes, l'oubli devient un élément utile dans mon travail. Si j'arrive à oublier tout ce que j'ai créé par le passé pendant une minute, si j'arrive en pianotant à jouer quelque chose qui me semble neuf, inconnu, alors je sais que je suis sur la bonne voie. Même si pour moi, il n'est pas évident, c'est un son inédit.
Vous savez quoi, on va essayer quelque chose, je vais vous passer une musique, l'une des vôtres, et vous allez me décrire les images qui vous viennent à l'esprit. Vous êtes prêts?
Yes.
Il faut fermer les yeux.
Okay, all right. What do I see?
Ce que je vois.
Something of a rose color.
Une couleur du rose.
That, blossoms,
quelque chose qui s'épanouit.
Opens up.
Une fleur qui s'ouvre.
Vibrant color.
Une couleur éclatante.
The notes.
À cause des notes. Il y avait deux notes là
kind of rising more than the other
qui se détachaient des autres dans cette phrase.
C'est un extrait de la musique que vous avez composée pour le film de Fritz Lang, Metropolis, film de 1926. Est-ce qu'on entend? Ce sont quand même aussi ces motifs qui se répètent sans cesse. Qu'est-ce qui se joue pour vous au sein d'un morceau à travers ces répétitions, Jeff Mills?
Well, it's. I mean, how much time do we? Do we...
Vous me donnez combien de temps pour répondre? C'est passionnant comme question. Nous vivons dans la répétition. Nous nous réveillons chaque matin à la même heure. Il nous faut des habitudes. Notre vie est faite d'habitudes.
Alors elle raconte la vie.
Oui, nous vivons dans
une spirale, dans un cycle. Et la musique, cette musique répétitive, elle nous convient finalement plus naturellement qu'une musique qui change à chaque minute.
Oui.
C'était une direction évidente à prendre quand la musique électronique en était à ses débuts. De tenter quelque chose de si répétitif que ça vous fait du bien, car vous savez à quoi vous attendre. C'est ce qui rend cette musique tellement à part.
C'est aussi une structure musicale que vous visualisez, je suppose, dans l'espace, vous qui par ailleurs avez fait des études d'architecture.
C'est une musique qui offre les pièces d'un puzzle mental à assembler. Il n'existe pas vraiment de méthode, de discipline selon lesquelles cette musique doit être construite. Cette liberté, c'est ce qui permet à chacun de s'y plonger dedans, de s'y investir. C'est pas comme le free jazz où il faut être un maître de votre instrument, ni comme la musique classique où il faut étudier depuis l'âge de 2 ans. C'est une musique ouverte, libre, généreuse. Pour moi, c'est le genre musical suprême, parce qu'il n'y a pas de structure, pas de règles. Et pour moi, cette musique absorbera toutes les autres avec le temps.
C'est fascinant de vous écouter, Jeff Mills. C'est comme si vous parliez de la musique comme d'un voyage intérieur aussi, d'un voyage presque cosmique, qui nous affranchirait des limites de notre propre corps. Je me pose la question, que deviennent les corps dans votre musique?
C'est métaphysique. Nous sommes en mouvement perpétuel. Même si nous croyons être immobiles ici, dans ce studio, dans cette maison, dans cette ville, dans ce pays, la Terre elle-même est en mouvement perpétuel. Nous ne sommes jamais à l'arrêt, jamais, tout au long de notre vie. C'est ce qui inspire cette musique, et c'est une des raisons qui la rendent unique. Elle incarne cette idée que nous sommes en mouvement pour toujours.
Qu'est-ce que c'est un corps pour vous, Jeff Mills ?
C'est une accumulation de choses qui parfois se connectent, parfois pas, mais tout réside dans notre rapport singulier aux autres.
Et quand la musique que vous écoutez est bonne, comme dirait Jean-Jacques Goldman, qu'est-ce qui se passe dans votre corps ?
Il se produit un certain conditionnement. La conjonction des notes, des accords, des fréquences qu'on obtient aujourd'hui électroniquement, provoque une réaction chimique. Le courant passe. Quand vous écoutez cette musique assez longtemps, vous vous déchargez de quelque chose. Et en le réécoutant, cela déclenche un état d'esprit qui en redemande et qui vous pousse à entrer dans la danse, à entrer en contact. Je l'ai compris très tôt. Quand j'étais jeune et que je me suis vraiment lancé dans la dance music, j'ai vraiment pris le temps de comprendre ce que cette musique avait d'exceptionnel. Pourquoi pas le rock, pourquoi pas le jazz ou le gospel, que sais-je. Qu'est-ce que cette musique avait de particulier ? Tout simplement, elle vous met dans un sentiment plus positif que négatif. Que quelqu'un compose et conçoive une musique pour vous, pour que vous vous sentiez bien, ça peut pas faire de mal. Et même si vous n'êtes pas fan, il reste cette intention pour que vous vous sentiez bien.
Alors justement, vous savez que moi, jamais mon corps n'est traversé par autant de plaisir, mon esprit aussi d'ailleurs, que lorsque j'écoute le parrain de la soul, James Brown, un artiste qui, je le sais, a bercé votre enfance à Détroit. I Feel Good, c'était en 1964, vous êtes sur France Inter avec Jeff Mills et vous vous sentez bien, vous vous sentez très bien là. I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. Sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. Sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice. Sugar and spice. So good, so good. But I got you.
Hey! Boomerang sur France Inter.
Il a des yeux incroyables, hein, qui lui mangent littéralement le visage et qui vous aspirent. Haute pommette, joue un peu creuse, menton pointu. Il a quelque chose d'irréel, de magique, même, dans sa chemise, en velours, ce matin, toute noire. Le musicien, compositeur et DJ Jeff Mills, invité de Boomerang. Et j'aimerais, si vous voulez bien, Jeff, que l'on en revienne un petit peu à l'endroit où tout a commencé pour vous. Cette ville de Détroit où vous êtes né au début des années 60, à quoi est-ce qu'elle ressemblait, cette ville dans laquelle vous avez grandi ?
Détroit, c'était autre chose que simplement la septième plus grande ville des États-Unis qu'elle est aujourd'hui. C'était une ruche. beaucoup d'embouteillages. Mais jamais vous ne sortiez de votre quartier.
Mais qu'est-ce qui a fait de cette ville, Jeff Mills, historiquement l'un des cœurs musicaux des États-Unis? Qu'est-ce qui explique ce bouillonnement, cet intérêt pour la musique et toutes sortes de musiques?
Alors tout ça, ça vient de l'histoire de la ville. Détroit était devenu une des destinations des Noirs du Sud pour trouver du travail, une éducation et bien d'autres choses. Les Noirs y ont apporté leur sensibilité. Et en se retrouvant ici, ils ont initié un grand mélange social. Aujourd'hui, je ne trouve toujours pas que ce mélange ait été bien raconté et bien expliqué. Mais si vous veniez du Kentucky à Détroit, vous vous installiez dans un certain quartier. Si vous veniez de Géorgie, vous vous installiez dans un autre quartier. Il y avait donc ces quartiers entiers qui étaient des prolongements de régions entières du Sud. Et quand ces gens se mélangeaient, c'était quelque chose. Ma mère et mon père étaient membres de plein d'associations, mes tantes et mes oncles aussi, et ils se rassemblaient là.
Et qu'est-ce qu'ils écoutaient comme musique? Précisément, dans quelle musique est-ce que vous avez grandi?
Oh, it was jazz.
Le jazz.
And, bebop.
Le bebop.
And, blues.
Le blues.
But these were the genres that were all mixed.
Mais ces musiques-là, elles se mélangeaient déjà entre elles, parce qu'on avait des gens de la Nouvelle-Orléans, des gens de Caroline du Nord. C'était un melting pot de cultures très riches qui se mélangeaient. Et je suis sans doute le résultat de ce mélange.
Et c'est passionnant que vous soyez penché et autant participé à ce genre qu'est la musique techno. En quoi la techno est-elle héritière justement de tous ces genres que vous évoquez?
Mais c'est pas étonnant que les choses aient évolué comme ça à Détroit. On était plusieurs, dont moi, qui voulions trouver notre propre formule, notre résistance underground, Carl Craig, Derek May. Et on a nos boîtes et nos labels, mais chacun de son côté. On fait la même chose, en même temps, mais séparément. Mais la Motown, c'était pareil. Vous aviez les Temptations, les Four Tops. Ils faisaient tous le même truc, mais chacun de son côté.
Mais qu'est-ce que la techno doit à James Brown, par exemple?
Wow. it's so much. We're so strongly connected.
On est tous tellement liés à la soul. Quand nous, les musiciens techno noirs de Détroit ou de Chicago, quand nous venons jouer en Europe, vous ne vous en rendez pas vraiment compte parce que nous jouons alors pour ce public dans ce contexte-là. Mais profondément, en nous, nous sommes très liés à la musique soul. Et notre musique, nous la jouons presque religieusement, comme un prêcheur devant ses
ouailles.
Quand je joue de la boîte à rythme, en fait, je parle au public. C'est plus de la musique, en fait. Je leur parle. J'avance, et puis j'arrête parce que je veux qu'ils prennent un temps pour y penser un peu, et puis on reprend. Tout ça, ça vient de la soul, du blues, du jazz. Et puis du gospel.
Et on a compris aussi qu'il y a toujours chez vous une dimension expérimentale, de recherche, de curiosité. Et souvent, on a parlé de la musique techno comme de la musique du futur. En revanche, tiens, je me pose la question, la musique du futur pour vous, ce serait quoi? Vous l'imaginez comment, vous, Jeff Mills?
Music of future. Well, it is anything that would make one feel.
Ce sera toute musique qui permettra aux gens de s'évader hors de leur temps et de leur espace. Mais ce futur, il n'est pas forcément dans l'avenir. Comme je le disais, nous vivons dans une spirale. La répétition des choses nous échappe encore complètement. Je
ne
crois pas que nous avancions forcément toujours dans le temps. Et donc, la musique du futur, c'est celle qui vous fait sortir de votre temps et de votre espace, quel qu'il soit.
Comme par exemple ce jour-là. Parmi vos très nombreux projets, Jeff Mills, il y en a un qui m'a beaucoup ému, c'est celui que vous avez mené avec l'Orchestre Philharmonique de Montpellier il y a 13 ans. Ensemble, vous aviez réorchestré certains de vos plus grands morceaux, dont celui-ci, The Bells. De quoi est-ce que vous vous souvenez? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous avez cet orchestre en face de vous, tous ces corps qui sont prolongés par des instruments?
C'est une expérience unique. Vous vous retrouvez à l'intérieur de la musique, à l'intérieur de la machine. Vous entendez votre musique tout autour de vous. C'est pas comme dans un studio où vous jouez des machines, mais leur son ne sort que par deux haut-parleurs. Là, vous êtes au milieu. C'est en trois dimensions.
Vous, votre instrument, c'est quoi, en fin de compte, Jeff Mills?
Percussion.
Les percussions.
Yeah.
Et quel rapport est-ce que vous entretenez avec vos machines? Puisqu'il s'agit de machines aujourd'hui.
C'est une relation très forte. On est très proches. Certaines de ces machines sont à mes côtés depuis mes débuts. C'est comme des gens. Elles ne respirent pas, mais j'ai touché ces machines tellement de fois. Je les ai branchées tant de fois. Je les ai vues tant de fois. J'en connais certaines depuis plus longtemps que la plupart de mes amis. Ce sont les objets que je possède depuis le plus longtemps. Alors même quand elles se cassent, je ne peux pas m'en séparer. On est trop proches.
Ce lien humain que vous décrivez avec vos machines, est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle vous faites de la musique?
Sans doute. Mais je découvre de nouvelles raisons. Collectivement, nous les humains, nous créons quelque chose qui dépasse nos propres personnes. Et je ne sais pas pourquoi. Mais communiquer par cette musique, nous exprimer par cette musique, nous rapprochera de quelque chose qui dépasse peut-être notre usage actuel de la musique. Et nous passerons alors un grand cap.
Merci infiniment, Jeff Mills, d'être venu faire un tour dans cette émission. Et merci à votre interprète ce matin, le rêveur Harold Manning. Je rappelle que vous serez ce soir, Jeff, à la Gaîté Lyrique à Paris, dans le cadre des veillées électroniques organisées par l'association Les Éveillés. Je rappelle également que votre projet Sight, Sound and Space sortira début octobre et que ça, c'est absolument exaltant. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Je ne suis pas chez...
Lolo Zouaille sur France Inter, tout de suite c'est l'heure des médias avec
Et
Sonia.
Moi. Salut Augustin.
À demain.
À demain.